9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, AVS, ça veut dire à votre santé. On démarre une nouvelle semaine santé avec le docteur Alouche. Comment ça va, docteur Alouche?
Ben, ça va très bien.
Alors, je vous appelle docteur Alouche, mais c'est votre prénom, c'est original. Vous êtes médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et vous êtes chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous avez commencé l'année scolaire en publiant un livre qui s'appelle la méthode des pathodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie esséché. Albin Michel, voilà, pour tous ceux qui verront l'émission sur la chaîne YouTube, on vous a fait un tarif de groupe, là, c'est le happy hour. Et quand vous ne faites pas tout ça, ben vous faites de la moto.
Ah oui, j'adore ça, et j'ai eu le plaisir d'aller tourner 2 jours au Mans.
Et sur le circuit, du Mans.
Sur le circuit du Mans qui est très rapide, et voilà, et je me suis aperçu que j'étais pas vraiment un bon racer, mais je me suis éclaté vraiment, je me suis régalé.
D'accord, et tout ça à quelle vitesse?
Je le dirai pas, mais remarquez, c'est sur circuit fermé, hein. Donc,
oui, faut le dire.
C'est attendez, moi, j'ai fait ma pointe. J'ai fait une pointe à 208, ce qui est pas terrible, hein. Mes copains, ils font des pointes à 270. Hein.
Oui. Voilà. 208, ça va. C'est
non, mais pour un nutritionniste, c'est le plus rapide de la place de Paris. Qu'on a, c'est bon. La Chevoilà est avec nous. Bonjour Chevoilà.
Bonjour Philippe.
Restaurateur, vous êtes propriétaire du restaurant numéro 1 dans le halal en France. Ça s'appelle le Médaillon et c'est à Villejuif. Tout ça parce qu'on va parler de la cuisine quand on est diabétique. Si quand vous regardez sur internet et que vous faites la recherche guérir du diabète, oui. Il y a beaucoup d'entrées qui vous disent qu'on peut guérir du diabète grâce à l'alimentation et qu'on peut donc il y aura un côté réversible du diabète. Oui. Est-ce qu'on peut docteur Alouche guérir du diabète grâce à son alimentation? Je parle du diabète de type 2 qui est le plus courant bien sûr.
Oui, pour rappel, le diabète de type 1, c'est un diabète, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie avant 25 ans qui fait que à cause d'une infection virale ou d'un gros stress, l'enfant ou l'adolescent va faire des anticorps contre son propre pancréas, détruire la partie dite endocrine du pancréas. Et à ce moment-là, on est obligé ensuite de faire des injections d'insuline. C'est une maladie qui se soigne très bien, je rassure les parents. Aujourd'hui, un diabétique de type 1 bien soigné, même s'il a commencé nourrisson à être diabétique, il a une espérance de vie équivalente à la moyenne nationale.
Mais ça reste pas évident, hein, parce que j'ai ma nièce qui a justement un appareil derrière le dos, qui c'est quand même une surveillance constante, si on est connecté toute la journée. Voilà, la pompe à insuline derrière.
Elle a quel âge, toi?
Maria, elle a 4 ans. Ouais. Et effectivement, ce que dit le docteur, elle avait rien au départ. Je pense qu'elle a dû subir, un choc et c'est arrivé à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Elle est rentrée, enfin, elle avait plein de boutons partout. Elle est rentrée en urgence à l'hôpital. On lui a dit, voilà, vous avez le diabète de type 1. Voilà. Ça s'est passé comme ça.
Mais la bonne nouvelle, c'est que elle fera attention à elle.
Oui.
Elle va apprendre sa maladie. Et donc, elle sera beaucoup plus, la seule période compliquée pour les jeunes diabétiques de type 1, c'est la période de l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, on veut s'affirmer comme un adulte ou comme une adulte et on va rejeter un peu les règles. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut vraiment que la relation avec le diabétologue et le médecin soit très bonne parce que lui prendra le relais, parce que les enfants sont pas fous. Quand ils font une crise d'adolescence, ils sont pas fous, ils se mettent pas en danger, mais parfois, s'il y a une relation difficile avec les parents, parce que les parents peuvent incarner à un moment le diabète pour les enfants, et quand ils font leur crise d'adolescence, ils vont repousser ça. Donc c'est 2-3 ans, faut bien les gérer, faut les préparer, faut pas les refuser parce que c'est comme ça qu'on fait sa personnalité d'adulte. Mais quand on a un diabète de type 1, c'est un peu plus compliqué pour les parents. Ils sont déjà assez culpabilisés comme ça.
La nuit,
ils sont là tout le temps.
C'est ça, avec
en permanence.
Surveille l'indice.
Donc voilà, donc ça se prépare. C'est une maladie. Si elle est anticipée, le diabète de type 1, c'est une vie quasi normale avec, bien entendu, la contrainte que vous avez donnée.
Mais par contre, c'est vrai que moi, je vois Maria, la petite, aujourd'hui, maintenant, d'elle-même, elle fait attention.
Oui.
Elle veut plus, par exemple, boire de boissons sucrées. Elle sait que de manger, par exemple, des pommes de terre le soir, c'est pas bon. Donc, elle va essayer d'elle-même, en fait, d'essayer de se gérer. Bon, elle est petite, hein, ça reste un enfant qui aime le sucre. Elle commence vraiment à faire des efforts. C'est vraiment d'ailleurs impressionnant, parce que même ses parents me disaient ça hier. On en parlait avec mon frère, et il me dit, de elle-même, elle commence à s'autogérer.
Voilà, elle sera plus éveillée probablement sur des sujets comme l'alimentation.
Elle est très éveillée, c'est
comme
vrai.
L'exercice physique, parce qu'elle va très vite comprendre que les deux variables d'ajustement pour elle, c'est l'exercice physique et l'alimentation. Puisqu'elle a une pompe,
c'est ça.
Donc la pompe gère le reste, normalement.
C'est ça. Hein,
c'est voilà, parce que
on envoie, en fait, on envoie de l'insuline avec...
On envoie de l'insuline. En fait, une pompe, c'est un petit dispositif qui est au niveau de l'abdomen, et qui va envoyer par une pompe, qui va envoyer les doses d'insuline nécessaires avec un capteur.
C'est ça.
Et on n'a pas encore la boucle fermée. La boucle fermée complète, c'est un système où le capteur envoie les informations à la pompe et qui régule elle-même. Ça arrive, c'est en train d'arriver.
Oui, ça arrive. Et mon frère avait déjà commandé ça aux États-Unis à l'époque.
Oui, exactement.
Effectivement. Et c'est ce qu'il va mettre. C'est ce qu'il a voulu mettre là, mais il y a eu un souci justement. Ils ont reçu l'appareil. Il y a eu un souci et les en France justement, ils nous ont dit que ça arrivait chez nous, qu'il fallait attendre encore quelques mois.
Exactement.
Et que ça allait être.
Exactement. Mais je vois Philippe qui nous fait les gros yeux pour répondre à sa question sur le diabète de type 2. Le diabète de type 2, il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui s'appelle l'étude directe. Et qui a effectivement, il y a certains médecins qui ont mis les gens à des régimes très, très basses calories pendant un certain temps. Et on a vu régresser le diabète de type 2.
Donc ça, c'est. Mais à très, très basses calories, en
fait. À très, très basses calories. Ouais. Tout le problème, c'est. Vous savez, c'est toujours la même chose. Quand on change d'habitude alimentaire, qu'on a une nouvelle routine, un nouveau régime, j'aime pas ce mot parce que c'est toujours très péjoratif. Mais à ce moment-là, il faut savoir si on peut le soutenir et combien de temps on peut le soutenir. Parce que les habitudes alimentaires, ça se fait entre 4 et 7 ans, 8 ans d'âge. Donc après, quand vous avez 40 ans, changer les habitudes alimentaires qui sont là depuis des dizaines d'années.
Sur la durée,
vous qui êtes chef, vous voyez bien, les gens ont toujours tendance à choisir la même chose. Vous avez beau vous taper la tête contre les murs pour faire des trucs un peu différents, ils veulent toujours manger la même chose. On l'a vu dans les cantines, il y a eu des études.
Psychologiquement, on a fait un menu bistrot. J'ai enlevé les photos du menu bistrot parce que quand ils voyaient, par exemple, tagliatelle fraîche. Un exemple, tagliatelle, ça leur parle. On ne fait pas de pâtes de base. Mais on s'est dit, on va faire un menu bistrot pour faire plaisir aux gens. Et en réalité, le bistrot est reparti beaucoup plus haut, justement au déni du gastro. Pourquoi ? Parce que les gens sont des plats qu'ils voyaient tous les jours. Donc psychologiquement, ils les connaissent. Voilà. Donc ils prennent pas de risque, ils prennent ce plat-là.
Exactement. Voilà. Et par exemple, il y a eu des tests qui ont été faits dans les cantines scolaires, où les enfants ont le choix. Et bien, on s'aperçoit qu'ils mangent toujours la même chose. Toujours la même chose. Et donc, c'est pour ça que les cantines doivent avoir des repas imposés dans les semaines, justement, pour que...
Alors, donc, en tout cas, c'est quand vous voyez sur Internet qu'on peut soigner le diabète grâce à un régime alimentaire, donc, si je vous comprends bien, docteur Alouche, c'est pour l'instant non.
C'est oui, mais de là à... Si vous voulez, le problème, c'est que le diabète de type 2, donc le diabète qu'on a après 40-45 ans, c'est le plus nombreux, c'est 90% des diabètes. En France, c'est 4 millions de gens. Donc, imposer à 4 millions de personnes qui vont de 40 ans à 80 ans ou 90 ans des contraintes comme ça, c'est compliqué. Il faut aussi que le jeu envahisse la chandelle, parce qu'il faut aussi que la vie soit agréable. Si vous mangez plus rien pendant des mois et des mois, et que votre vie devient un cauchemar, c'est compliqué.
Donc justement, à quel moment, puisqu'on parlait de ça en tête, à quel moment il est conseillé aux diabétiques justement de pouvoir consommer du sucre? À quel moment de la journée? Parce qu'un diabétique aussi consommera un peu de sucre, même si c'est pas autant qu'un non-diabétique. Mais quel moment est plus important dans la journée pour manger du sucre?
En gros, il faut comprendre que le sucre, c'est une forme de, c'est le carburant. C'est ce qui va, le cerveau, il consomme du glucose. Voilà. Donc tout notre tube digestif, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ce qu'on avale en glucose. Alors, bien entendu, il y a des vitamines, il y a de l'eau, il y a des minéraux. Mais, globalement, il le transforme en glucose. Et donc, le glucose, c'est un carburant. Le carburant, quand vous remplissez le carburant dans votre réservoir en voiture, eh ben, il faut vous arrêter à un moment, il faut le consommer, et puis après, vous allez remettre du carburant. Et c'est exactement la même chose. Moi, je suis partisan de faire en sorte que le matin, on puisse avoir des glucides, parce qu'on sait que ceux-là, on va les consommer. Ne serait-ce que même si on a une petite activité, si on va marcher pour aller jusqu'au transport en commun, si on fait son ménage, si on fait ses cours, si on fait son truc, si on va à son boulot, on va bouger, on va marcher, on va le brûler. Le problème, c'est facile à comprendre, c'est si vous consommez les glucides le soir, à ce moment-là, le soir, bah, vous allez dormir avec. Hein, et le soir, vous allez les stocker. Et en fait, il faut savoir que le grand régulateur, le grand chef qui régule la glycémie, donc la glycémie, je rappelle, glucose, le sucre, hémie, le sang, donc le taux de sucre dans le sang, eh bien, je rappelle que c'est le foie. C'est le pancréas qui fait l'insuline, mais c'est le foie, le général,
qui stocke.
Et il stocke de deux façons. La première façon, pour lui, la plus simple, mais qui lui prend beaucoup de place, c'est le glycogène. C'est un assemblage de glucose ensemble, qui met dans son propre parenchyme, dans sa propre structure. Et ce glycogène, il en a 20 minutes pour le cerveau. Parce que si on manque de trucs, c'est le foie qui donne l'énergie au cerveau. Parce qu'il faut savoir que les muscles sont très égoïstes. Les muscles, quand ils ont une réserve de glycogène, eh bien, ils les gardent pour eux. ils les échangent pas entre eux.
Mais le cerveau, il se sert pas en premier, lui?
Le cerveau se sert toujours en premier, ouais, sur ce qui circule, d'accord, dans le sang, mmh, mais il y a quand même encore une réserve pour lui. Et puis la deuxième façon qu'a le foie de stocker, qui est la plus importante, comme le glycogène, ça lui prend beaucoup de place, et ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça sous forme de triglycérides. Tri, 3, glycérides, une chaîne de glyc, de sucre, avec un noyau glycérol. Et ça, il est capable après de le stocker à peu de frais dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules spécialisées qu'on a autour du ventre, qu'on a sur les cuisses, un peu sur le visage.
Donc là, c'est du gras.
C'est du gras, voilà. Donc il a une réserve comme une usine, il fabrique, il met dans un stockage, il faut que son stockage lui coûte le moins cher possible. Voilà.
Alors, chef, voilà, si vous êtes d'accord, moi j'aimerais que vous nous expliquiez deux notions dont on entend souvent parler, c'est l'hypoglycémie et l'hyperglycémie.
D'accord.
Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, ouais, et à quel moment elles se produisent?
Alors, il faut savoir que le sucre est tellement important pour l'organisme et pour le cerveau qu'on en a toujours un minimum, ce qu'on appelle la glycémie à jeun. Cette glycémie à jeun, elle est comprise entre 0,75 g par litre, hein, on dose en litre, et 1,05 g par litre.
C'est comme ça qu'on nous teste d'ailleurs.
Voilà, ça c'est la glycémie.
On est tout le temps testé à jeun pour savoir quel est l'indice glycémique.
Exactement. Ça c'est la glycémie de base, il faut qu'il y ait toujours du sucre qui circule. Parce que si vous descendez en dessous de 0,7, eh ben c'est l'hypoglycémie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les capteurs du cerveau, les capteurs des organes sont désorganisés, il n'y a pas assez de sucre. Et les premiers signes de l'hypoglycémie, c'est je me sens pas très bien, je commence à avoir des sueurs froides. Je titube et à un moment, je peux tomber dans les pommes.
Est-ce qu'on peut en mourir de l'hypo ou de l'hyper?
On peut en mourir. Si on a un malaise hypo et qu'on n'a pas quelqu'un qui vous resucre au début ou que vous mettez pas quelque chose dans votre bouche pour commencer à resucrer, ou si on vous met pas une perfusion, vous allez mourir.
D'accord.
Voilà. L'hyper, c'est autre chose. L'hyperglycémie, c'est qu'on n'a pas assez d'insuline. Il faut expliquer un peu l'insuline quand même, je suis désolé. C'est que quand...
Soyez pas désolé.
Quand votre sucre,
s'il vous plaît.
Quand votre sucre dépasse 1,05, 1,10, à ce moment-là, il y a un organe qui s'appelle le pancréas qui va fabriquer... Le pancréas, c'est un organe extrêmement important. Il est très profond. C'est un organe très compliqué. Il a deux fonctions. Une fonction dite exocrine, c'est-à-dire que c'est pas compliqué, hein. Exocrine, crine, je sécrète, exo à l'extérieur. C'est-à-dire que le pancréas, il y a un canal qui fait qu'il va sécréter dans l'intestin des extraits pancréatiques qui vont permettre d'absorber les graisses. Voilà. Ça, c'est...
Il reste quand même le pancréas très égoïste parce que quand il nous élimine le sucre, il nous élimine complètement le sucre.
Alors, ça, c'est l'exocrine. Et puis, il y a l'endocrine. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui vont sécréter l'insuline, et ils vont l'excréter endocrine dans le sang, endo. Voilà. Donc le pancréas, il a vraiment deux fonctions. Le pancréas, dès qu'il voit la glycémie augmenter, il sécrète l'insuline. Il envoie l'insuline. Voilà. C'est très bête. Et à ce moment-là, l'insuline va faire rebaisser le sucre dans le sang. Hein, puisque je vous rappelle que quand le sucre augmente dans le sang, l'insuline apparaît. Qu'est-ce que c'est l'insuline? C'est une petite clé. C'est des milliers de petites clés qui vont ouvrir. Vous savez que le long de vos artères, vous avez des cellules. Donc chaque cellule est alimentée par des artères, des petites artères, même les plus petites. Et à ce moment-là, l'insuline, c'est une clé qui ouvre la porte et le sucre rentre dans les cellules. Et à ce moment-là, le sucre rediminue dans le sang. Voilà, c'est comme ça que ça...
Alors, chez voilà, on va marquer une pause. On va faire une pause. Rien, chez voilà. Si vous voulez qu'on parle de la lymphe aujourd'hui, il va falloir qu'on cuisine tout à l'heure et que justement on voit comment composer un repas idéal quand on est diabétique avec le chef voilà et le docteur Réginald Allouche qui sont nos invités jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, vous êtes très nombreux à nous poser la question, c'est savoir qu'est-ce qu'on mange quand on est diabétique et puis à quoi il faut faire attention, quelles sont les bonnes associations qu'il faut faire. Le chef voilà est avec nous et puis le docteur Réginald Allouche termine la saison avant on va le libérer, il a fait une belle saison, il pourrait partir en vacances.
Merci à Beurre FM.
Question, Doc, pour les diabétiques et on va venir sur la cuisine. Le matin, le menu type, en fait, puisque dans ton régime, on peut, enfin, pardon, dans ta méthode, on peut mettre du sucre le matin. Oui. Chose que moi, malheureusement, je suis pas habitué. Par exemple, le petit déjeuner du matin, quel serait le bon petit déjeuner pour une personne comme moi, d'1m80, 82 kilos, sans forcément avoir des gros problèmes de diabète, mais je pense que bon bah comme tout le monde on arrive à plus de 40 ans donc on commence à vouloir faire attention. Quel serait le petit déjeuner idéal pour une personne en forme et pour une personne diabétique?
Alors déjà par rapport à la question qu'a posée Philippe Robichon, je pense que il faut bien préciser que il faut pas diaboliser le sucre. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on mange pas de sucre du tout. Il faut juste manger des bons sucres. D'accord. Ça, c'est très très important parce que les gens disent ah je suis diabétique donc j'arrête tout. Non, faut pas faire.
Et là aussi, il y a une nouvelle mode, pardon de vous couper, docteur Alouche, qui arrive. C'est vous savez les années sans sucre. Les gens ils traquent complètement les sucres.
Oui. Mais bon, il faut dire aussi que dans les préparations industrielles, on met du sucre systématiquement, que c'est très peu légiféré. Il y a peu de législation là-dessus. Je vous rappelle que nous vivons dans un pays où on peut mettre autant de sucre qu'on veut dans les bonbons de nos enfants.
C'est clair.
Hein? Alors qu'on réglemente sur bien d'autres sujets, mais que celui-là. Par un hasard curieux, il échappe à tout législateur et pourtant nos députés, ils font des lois, hein, ils en font beaucoup.
Mais d'accord, il réagit pas pareil au même sucre, par exemple. Si c'est au sucre raffiné, ça va pas être la même chose que le fructose, etc. Oui,
exactement. Alors, d'abord, pour répondre à votre question, le matin, moi, je suis un traditionnaliste. Je pense qu'il est très très difficile de changer son petit déjeuner.
Ah, c'est dur.
Pour nous, très difficile.
Les Français, on est attaché à notre petit déjeuner.
Voilà. Que ce soit en France, que ce soit au Maghreb, on mange du pain le matin. Voilà. Oui. Donc moi, ce que je me suis dit, je vais travailler avec les meuniers, je vais essayer de voir quel est le meilleur pain. Le meilleur pain, il n'y en a pas 36, c'est la baguette tradition, qui a un bon index glycémique, on expliquera tout à l'heure, et puis le pain au levain. Oui. Parce que le pain au levain a un avantage énorme, c'est que quand on mange du pain au levain, donc il faut qu'il soit traditionnel, le levain commence à découper le gluten dans l'estomac. Donc la dose de gluten pur qui va rentrer dans l'intestin, sera inférieur avec un pain au levain. Donc, le bon petit déjeuner, c'est une boisson chaude, celle qu'on aime, sans sucre si c'est possible ajouter. Deuxièmement, deux ou trois tartines de baguette tradition ou de pain au levain, du beurre doux, parce que la matière grasse est quelque chose, est très importante, c'est de l'énergie et c'est surtout de la satiété. Faut pas oublier que dans le beurre, on a des acides gras saturés qui vont aller augmenter la satiété. Et je rappelle que la satiété, faut faire un distinguo entre le rassasiement et la satiété. Le rassasiement, ah j'ai bien mangé, voilà, tout va bien. La satiété, c'est le respect des 4-5 heures entre deux repas où je vais pas grignoter, je vais pas avoir faim.
Pourquoi vous précisez beurre doux ?
Parce que le beurre salé, très bonne question, le sel, avec une molécule de sel, deux molécules d'eau. Je vous rappelle que quand on traverse le désert, on prend de l'eau et du sel.
Hein? Donc c'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée. Ça peut être sympa le dimanche. Je veux dire, il faut jamais dire jamais.
On va en avoir de toute façon. Par exemple, si on fait une omelette le matin, automatiquement on va mettre une pointe de sel.
On va avoir du sel, mais dans le pain il y a du sel.
Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Dans le pain exactement.
C'est le plus gros pourvoyeur de sel aujourd'hui.
Alors après on est.
C'est le pain. Hein.
Oui, mais on n'est pas non plus. Alors en règle générale, on est à 5
et
grammes.
Fromage.
5 grammes au kilo de sel. En général, parce que je suis dans la boulangerie, on est environ à 5 grammes au kilo. Sur 1 kilo, on va faire environ 5 baguettes, enfin 5 baguettes de tradition. Est-ce que, bon, on a près 1,5 g par baguette, est-ce que c'est très important de calculer ce sel ou pas?
Oui, c'est important parce que la dose de sel que l'OMS recommande, c'est aux alentours de 6 grammes.
Par jour?
Ouais.
D'accord.
Ouais,
cumulé.
C'est pas beaucoup, hein, c'est pas énorme.
C'est pas énorme.
Entre l'entrée, enfin,
le matin,
midi, soir.
Et puis, il y a aussi, dans le pain, il n'y a pas, on parle d'un gramme et demi. Parfois, c'est un peu plus, parce que le sel est un excellent conservateur, c'est qu'il attire l'eau, donc il fait gonfler, il fait lever, bref.
Si le levain, tout est une question, voilà, nous on fait que du levain, on fait pas de, voilà, il n'y a pas de levure.
Mais le levain, ça veut dire qu'il faut conserver la mer,
que
la mer, il faut la travailler.
C'est ça.
Exactement.
Mais on a cet aspect beaucoup plus salé, sans rajouter forcément du sel en créant le levain, en fait, c'est faire fermenter la pâte, le levain. C'est une pâte que tu fais fermenter pour que.
Soit la levure industrielle, soit le levain.
Voilà, la levure chimique, c'est un champignon, en fait. C'est un champignon qu'on va mettre dans le. Nous, on l'utilise pas pour la bonne et simple raison que la levure, c'est bien, ça fait monter très vite la pâte, donc en 5 heures, tu as une baguette. Sauf qu'à la fin de la journée, ta baguette, tu peux pas la manger parce qu'elle est dure. Avec le levain, on le garde 3 jours.
On peut donner un petit truc aux auditeurs pour savoir si c'est au levain ou à la levure industrielle. C'est l'uniformité des bulles. Plus c'est industriel, plus les bulles sont les mêmes. dans le pain. Vous savez, dans
les alvéoles, en fait.
Les alvéoles, voilà, pardon. C'est non, le mouvement intertextique, c'est ça. Et en fait, avec le pain au levain, les alvéoles sont beaucoup plus aléatoires. Il y en a des grosses. Et c'est comme ça qu'on sait si c'est un pain au levain. Donc, pour le petit déjeuner, on mange sa tranche de pain, ses tranches de pain au levain ou de tradition avec du beurre non salé.
Il y a une quantité?
Moi, non, j'en donne jamais.
Parce que
je parle jamais quantité.
Si par exemple, on va prendre Tarek, qui est avec nous, est-ce qu'il a le droit, par rapport à son beau gabarit, et c'est un beau bébé, est-ce qu'il a le droit de manger, par exemple, un trois quarts de baguette? Et dirons-nous que...
Oui, mais Tarek, il
est... Philippe, une baguette, par exemple, vu le gabarit, ou pas?
C'est pas une question de gabarit. C'est un moment de décider dans sa vie qui on est et qu'est-ce qu'on veut devenir.
D'accord.
Vous savez, le problème, les gens ne mangent jamais. Moi, je ne connais pas d'obèses ou de gens en surpoids qui soient des gens négligés. En disant, ouais, mais il est comme ça parce qu'il fait pas gaffe, il mange. C'est pas comme ça, la vie.
Non, bien sûr.
Les gens, s'ils mangent, c'est qu'il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils ont besoin de se remplir, qu'ils ont besoin de ça pour s'apaiser. D'accord? Donc, quand on explique à quelqu'un une routine, un régime, vous-même en tant que chef, vous leur donnez le respect d'eux-mêmes et l'estime d'eux-mêmes.
Bien sûr.
Je suis sûr qu'au bout de 2 tartines, 3 tartines, raisonnablement, on se dit « j'ai bien mangé ». Si on mange plus, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il faut travailler.
D'accord.
Moi, je ne connais pas de gros négligés. Je ne les connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Quand vous travaillez et quand vous les écoutez, c'est pour ça qu'une consultation doit être longue, vous apprenez des choses sur eux et ils apprennent sur eux-mêmes. Et si vous avez ce lien, à ce moment-là, on peut faire n'importe quoi. Je termine. Un fruit. Moi, je ne suis pas un farouche partisan des jus de fruits. Je vous expliquerai pourquoi pour le fructose tout à l'heure. Un fruit. Dans un premier temps, je n'aime pas beaucoup que les gens puissent consommer des bananes, des cerises ou des raisins pour des raisons uniquement pratiques. La banane, c'est un fruit qui est riche en amidon. Donc très, très, très riche en sucre. C'est comme la datte. C'est un fruit de guerre.
Je mangerai plutôt l'après-midi, moi, ça.
C'est un fruit de guerre. La datte et la banane. C'est des trucs que vous pouvez tenir avec des dattes et une banane. Et les cerises et raisins, parce que c'est très très difficile de se contrôler quand on mange le raisin.
Vous dites la date le matin, non?
Non, la date, on peut manger une date. C'est pas un problème, une date, parce que la quantité est faible.
D'accord.
Il faut pas manger 5-6 dates.
Ah,
5-6 dates, c'est beaucoup. Surtout, il y a des très belles dates qui sont très appétissantes. Et puis, moi, ce que je conseille, donc, c'est le fruit et puis 3 noix. Alors, les 3 noix, pourquoi? Parce que on sait que les noix, d'abord, apportent des acides gras insaturés et saturés, donc beaucoup d'oméga 3, qui sont très, pas antidépresseurs, c'est un peu exagéré, mais qui vont vous calmer, qui vont être anti-inflammatoires pour la journée, et surtout, qui vont amener une très bonne satiété. Donc, vous cassez 3 noix, et pour les gens qui se lèvent très tôt, parce qu'ils ont un bus, un taxi, un train, machin, ils peuvent fractionner. Moi, je leur conseille de fractionner, c'est-à-dire de prendre le petit déjeuner avec le pain à la maison. Si on n'a pas eu le temps d'acheter le pain, parce qu'on se lève très tôt, parce qu'il y a des gens qui se lèvent très très tôt, à ce moment-là, vous les mettez au congélateur, vous les prédécoupez, vous les ouvrez, vous mettez un petit peu au micro-ondes. Bon, alors micro-ondes, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le pain, mais après vous dosez et vous pouvez avoir. Et le reste, vous le mangez soit dans le train, soit dans le voilà. Et c'est comme ça, on se débrouille. Mais un bon petit déjeuner, franchement, un bon petit déjeuner.
Avec des fruits secs alors?
Non, pas de fruits secs. Moi, je préfère des fruits, des vrais fruits.
D'accord.
Des vrais fruits.
Et de la noix.
Et les 3 noix.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est le petit déjeuner d'un diabétique ou pas diabétique, parce qu'au fond, même un diabétique, il va bouger. Il va se lever, il va marcher. Puis vous savez, un diabétique de type 2, il a encore une sécrétion d'insuline. Le problème, c'est qu'il est résistant à sa propre insuline. Hein. Et je rappelle.
Et est-ce qu'on peut relancer alors cette production d'insuline ou pas?
Oui.
Grâce à l'alimentation, justement.
Aujourd'hui, on peut. Il y a 2 façons de relancer la sécrétion d'insuline. Si vous voulez, le diabète, c'est assez simple à comprendre. C'est 2 facteurs. D'un côté, j'ai pris du poids, je ne fais pas d'exercice, je suis devenu résistant à l'insuline, parce que j'ai du grain un peu partout, dans mes muscles, dans mon foie. Et de l'autre côté, mon pancréas n'en peut plus, il fait de l'insuline, il commence à fatiguer.
Mais des fois, il y a des gens qui sont très maigres et ils ont un diabète de type 2.
Alors, les très maigres qui ont le diabète de type 2, c'est une très bonne remarque, ce sont des gens qui n'arrivent plus à stocker, qui génétiquement ne peuvent plus faire de stockage. Comme ils ne peuvent plus faire de stockage, eh bien, le sucre circule dans le sang.
Ça, c'est dangereux.
C'est beaucoup plus dangereux que celui qui...
Vous savez, cet homme de 45 ans qui a toujours mangé n'importe quoi, qui avait juste un petit bidon, et puis à un moment, son bidon augmente, puis il ne peut plus. Et à ce moment-là, la décision, c'est je laisse flotter le sucre dans le sang. Voilà, donc ça, ce petit déjeuner-là, globalement, il va à tout le monde.
Et on moi, dans mon expérience, fromage ou pas
on peut, y on peut rajouter le fromage beurre, à la place du beurre, je préfère.
À la place du beurre. Parce que ça, alors pour avoir fait, pour avoir suivi moi la chrononutrition du docteur Delabo pendant des années, je mange du fromage le matin et il est vrai que on est bien rempli jusqu'à.
Ah non, mais c'est indiscutable.
Voilà, si on mange très sucré, ça m'est arrivé de manger comme tout le monde, hein, un bol de céréales, la chose qu'il ne faut pas manger le matin avec du lait.
Deux heures après,
t'as la dalle, t'es affamé. Que en mangeant,
c'est le cas de nos enfants d'ailleurs.
Bah c'est ça. Que en mangeant vraiment le matin ta tartine au fromage. Alors moi je mange des œufs, je mange un peu de tout. Hein, je fais pas que 100% la technique. Mais c'est vrai que je m'aperçois que j'ai vraiment pas faim, mais du tout. Si je mange vers 8-9 heures, je vais avoir faim vers 13h30, 14 heures.
Alors le fromage, mille fois oui. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal le matin avec l'odeur du fromage. Voilà. Donc ceux-là, je leur recommande par exemple de prendre un fromage frais de chèvre. Vous savez, le fromage frais de chèvre, parce qu'on peut le tartiner. Ouais. Et ça, c'est très bien aussi, c'est aussi mieux que le beurre.
On peut le cuisiner aussi en quiche, on peut le faire en feuilleté, on peut le faire en plein de choses, voilà. Voilà, c'est important. Mais c'est important parce que ça prend pas plus de temps, en fait, en réalité, de préparer la semaine.
Vous voyez, il faut pour ça, le beurre, vous pouvez laisser la plaquette au frigo.
Ouais.
Le fromage frais, il faut qu'il soit frais.
Ouais.
Il faut, donc c'est déjà
c'est une logistique différente.
Alors, le fromage frais, qu'est-ce que vous appelez fromage frais?
Vous savez, il est comme les petits billets.
D'accord, mais pour vous, le comté, tout ça, c'est...
Ah, le comté, on peut, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette odeur-là le matin, c'est tout. Mais ceux qui peuvent, pourquoi pas, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Moi, je ne suis pas... Alors là, de ce côté-là, je suis absolument aligné.
Un croque-monsieur le matin, ce serait top, quoi.
Croque-monsieur le matin.
Béchamel, fromage, tranche de jambon.
Là, vous y allez trop fort pour moi.
C'est trop fort. Sans le pain de mie. Un croque-monsieur sans pain de mie.
Alors, avec un pain.
On prend la baguette de tradition, par exemple.
Ouais.
On l'utilise comme si on utilisait le pain de mie. On va y mettre, donc, un petit peu de beurre, une petite tranche de jambon, un peu de béchamel, un peu de fromage.
Ouais, et vous c'est mettez tout. Ça,
au four.
À griller au four.
Ouais. C'est pas mal.
Très bien, mais logistique.
D'accord.
Logistique. Vous savez, j'ai beaucoup de patients.
Le week-end, c'est plus facile. C'est
voilà. Qui ne mangent pas le matin.
Oui.
Qui ne mangent pas.
Mais parce qu'on mange trop. Alors, ça, je l'ai fait. Moi, je t'en ai parlé, docteur, juste avant. J'ai eu le double régime yo-yo. Je l'ai fait, ça. En fait, parce qu'on mange le soir.
Ouais.
Ceux qui ne mangent pas le matin, c'est parce qu'on mange trop le soir. Celui qui mange très léger le soir, il a faim le matin.
Exactement.
C'est qu'on pousse trop le soir la consommation.
Et il y a quelque chose, une petite sensation que je recommande. C'est que lorsqu'on commence comme ça à inverser, à manger le matin et à manger léger le soir, on est très content le matin de se réveiller, avoir faim et d'avoir envie de ses tartines, son café, son machin.
C'est top, c'est vrai.
Plutôt que d'être écœuré quand on se lève le matin, on se dit bon, je prends un petit café, je vais travailler.
J'ai pas envie de manger, c'est ça.
Voilà. Exactement. Ça, si vous pouvez retrouver cette sensation, elle est absolument géniale. Attendre son petit déjeuner.
Et mieux, Philippe, tu vas te lever le matin. Tu penses pas quand tu as le ventre plein le matin, puisque tu dépenses pas. Mais quand tu as faim, tu te lèves le matin et c'est un plaisir d'aller déjeuner. Ouais. Vraiment, tu retrouves le plaisir qu'on n'avait pas.
Exactement. Bien, le docteur Alouche rencontre le chef Voilà sur Beurre FM jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, cuisiner quand on est diabétique avec le docteur Réginald Alouche qui est là. Je rappelle le titre de votre livre que vous pouvez emporter avec vous pendant les vacances, la méthode des pâteaux détox. Massir durablement et sans danger.
C'est le job.
C'est chez Voilà qui fait le job et le chef Voilà est avec nous. Vous êtes restaurateur et vous êtes toujours le numéro 1 des restos halal en France, chez Voilà.
Bravo.
Le restaurant, c'est Médaillon, le Médaillon à Villejuif.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais on a eu le Travel Choice de TripAdvisor.
C'est pas mal.
Ça, l'excellence dans les. Je regardais ça hier, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est quoi ça?
Votre modestie, vous en prenez
un coup,
chez Voilà.
Ah non, c'est pas de ma faute, c'est l'excellence dans l'excellence en fait. C'est le plus haut titre, j'ai rigolé quand j'ai lu ça, c'est le plus haut titre que TripAdvisor puisse donner.
Bien, alors, qu'est-ce qu'on prend en compte quand on compose un repas et sur toute la journée, docteur Alouche, à quoi est-ce qu'on doit faire attention?
On doit faire attention d'abord à avoir d'abord une bonne part de protéines. Parce que les protéines, c'est ce qui apporte les acides aminés, qui sont les éléments qui construisent les cellules, les anticorps, les structures, les membranes, les aponévroses. Alors les bonnes protéines, ben, vous les connaissez, hein, c'est le poulet, la viande, les œufs, le poisson. Moins les charcuteries, je suis pas très charcuterie, parce que pour des tas de raisons, parce que la salaison parfois est un peu trop élevée et on a des risques avec les nitrosamines que ça peut faire au niveau de l'intestin grêle.
Les nitrosamines, c'est...
Les nitrosamines, c'est des produits de dégradation des sels nitrités qui servent à la salaison des charcuteries.
C'est pour ça que la charcuterie change de couleur.
Voilà, exactement.
Ah oui.
D'ailleurs, quand on fait des études, faut comprendre en France, faut reciter les données de Le Fival, parce qu'on est toujours en train de dire oui, vous mangez trop de viande, c'est pas vrai. Hein. En France, on ne mange pas assez de viande. On mange beaucoup de charcuterie, oui. C'est pas la même chose. On mange aussi beaucoup de VSM, de viande séparée mécaniquement. Donc, tout ce qui va être steak haché dans les sandwicheries qui sont recomposés. Mais la viande en elle-même,
La consommation a beaucoup baissé.
Ah oui, on est très, très loin du compte. Il faut regarder juste Le Fival pour ceux qui s'intéressent. Le Fival, c'est la donnée, justement, des viandes en France.
Et qui inclut, justement,
Et tu vas voir que, pour dire une bêtise, la viande de veau, on est à 100 grammes par semaine de viande de veau par français.
Ouais.
C'est pas grand chose. Ouais. En viande de bœuf, on est à 250 grammes par semaine.
Et puis on a beaucoup abandonné les abats.
Oui.
Et la triperie, et c'est très dommage. Parce qu'en termes d'apport en vitamines, en fer, c'est très important. Une tranche de foie, c'est un trésor. Ça ne veut pas dire qu'il faut en manger tous les jours. Il faut en manger une fois par mois. Mais voilà. Donc une protéine avec la viande rouge. Alors, le problème de la viande rouge, c'est effectivement, est-ce qu'elle a été stressée, pas stressée? Il y a plein de choses. Moi, je considère que quand on mange la viande d'un animal, faut la respecter.
Bien sûr.
Il nous donne son corps à manger. Le moindre chose qu'on puisse lui faire, c'est de la respecter. Parce que c'est un être qui a été créé. Et cet être, il faut le respecter.
Alors, pour manger la viande rouge, moi, justement, je vais vous poser une question, Doc, c'est important pour tous les sportifs. Le midi, parce qu'il est préconisé dans moi, ce que je fais, je mange beaucoup la viande rouge le midi. Alors, on me dit souvent, les sportifs, mais moi, je mange beaucoup de viande blanche. Mais moi, je me suis aperçu, vous allez me dire si c'est vrai, comment se fait-il que si je mange un steak de 180 grammes de viande rouge, et que si je mange 180 grammes de viande blanche, mon effet de satiété va être beaucoup plus présent avec la viande rouge qu'avec la viande blanche. J'ai encore l'impression qu'il me manque à manger.
Parce que la viande rouge est dite héminique. Elle est très riche en fer. Très riche en fer. Et donc, en fait, c'est cette richesse en fer qui vous donne cette sensation. Je pense que la viande rouge, il faut en manger deux fois par semaine.
D'accord.
Je pense que deux fois par semaine, c'est bien, mais il faut une belle viande rouge, une bonne viande rouge. Pas trop cuite non plus, parce que faut.
Moi, je disais que pour nous, c'était 1 kilo par 1 gramme par kilo. C'est-à-dire, moi, je fais par exemple 10 grammes par kilo. Je fais 80 kilos. Je mange entre 750 et 800 grammes de viande par semaine. Est-ce que c'est un bon indice?
Oui, c'est un bon indice.
Alors après, je peux les manger soit en un seul coup, soit trois fois dans la semaine. Mais voilà, mais je dépasse pas cette viande-là.
Vous savez, je veux dire, le problème des quantités, c'est est-ce que vous avez une activité physique ou pas?
Oui, c'est ça.
C'est tout. C'est ça. Si on a une activité physique, parce qu'il n'y a pas que des protéines dans la viande, il y a du gras aussi.
Il y a du gras aussi.
D'accord? Donc le gras, il va falloir aussi le brûler. Hein, parce qu'on brûle le sucre, mais on brûle aussi le gras. Donc en fait, dans les protéines, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on ouvre le tiroir, il y a plusieurs tiroirs qui sortent. C'est pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça que je vous remercie de faire ces émissions. Donc il y a le poisson, bien entendu, qui reste la protéine. Bon, encore faut-il qu'il soit pas trop gros. Je vous rappelle que le problème aujourd'hui, c'est que les gros poissons, type thon, espadon et ainsi de suite, sont des poissons qui sont assez pollués aux métaux lourds, puisqu'ils mangent les petits poissons, donc ils accumulent les métaux lourds. Donc les poissons qu'on doit manger régulièrement, c'est surtout sardine macro.
J'adore la sardine, c'est ce que j'allais dire, la sardine
macro. Sardine, c'est le moins cher au monde. Hein.
Mais c'est le meilleur des meilleurs poissons.
Moins cher au monde, ça vaut 1€ le kilo. Hein.
Doc, 1€ le kilo, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps.
Il va vous marcher à Tunis. À la goulette.
C'est un peu plus cher que ça quand même, mais c'est vrai que c'est des poissons les moins chers.
En tout cas, ça a été pas cher. Mais le macro et la sardine, qui étaient vraiment des plats pauvres,
sardine, on est à 6, 7, 7, 8 euros le kilo.
Même 8 euros le kilo.
Ah, il est sympa, mon poissonnier, alors, parce qu'il me connaît. Hein. Ouais. Je vous assure que je ne paye pas cher.
Alors, donnez l'adresse, je vous jure.
En plus,
s'il a 1€ le kilo,
il va me dire, non, on veut le même prix que le docteur. Non,
c'est chaud.
Pas question.
1€ le kilo.
Donc ça, donc un repas, vous avez votre protéine. Ensuite, il vous faut de toute façon des légumes. Et là, il faut les trois couleurs. Il faut du vert, du jaune, du rouge. Il faut.
Le soir.
Il faut non dans à midi une grosse salade mixte, même de l'avocat. L'assaisonnement est très important. Évitez les assaisonnements de certaines brasseries où on fait tchut comme ça parce que c'est pas comme ça l'assaisonnement.
Non, mais par exemple un petit huile d'olive, citron, gingembre, vinaigre de balsamique, une cuillère de miel, ça passe.
Alors moi je suis pas chef, hein, j'ai pas votre savoir-faire. Moi, j'aime bien l'huile de colza, le mélange huile de colza, huile d'olive.
Oui,
parce
oui,
que ça permet
d'avoir. On peut les acheter en plus.
Exactement. Ça change les oméga 3. Gingembre, oui, 10 fois. Vinaigre, j'aime bien mélanger le balsamique et le non balsamique parce que le balsamique est sucré.
Oui.
Et donc, c'est une dose de sucre qu'on ajoute. Le miel, c'est la même chose. Il faut en mettre vraiment très très peu.
Une larmounette.
Voilà, une larmounette.
C'est du fructose d'ailleurs. Le miel, c'est du fructose, non?
Le miel, c'est du fructose essentiellement. Pas, ouais. Voilà. Et le fructose, vous savez qu'il est très particulier.
Il n'y a pas que du fructose dans le miel, mais
il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Voilà. Le fructose, c'est un sucre qui est uniquement métabolisé par le foie, et ça lui demande beaucoup de travail.
C'est pire que le saccharose?
Ah, c'est pire. Alors, dans les sucres, vous avez les monosaccharides et les disaccharides. Oui. Le monosaccharide, c'est le fructose, qui est que du fructose. Et les disaccharides, c'est le saccharose, où il y a fructose-glucose.
D'accord.
D'accord. Donc, quand par exemple, vous pressez un jus de fruit, vous n'avez que du fructose. Et ce fructose-là, c'est que le foie qui va s'en occuper pour le transformer en glucose. D'accord. Alors que le glucose lui-même, il peut être transformé directement par les muscles.
D'accord.
Donc, quand le foie transforme le fructose en glucose, ça lui demande beaucoup de travail et il fait rien d'autre en même temps.
D'accord.
Et donc c'est comme ça qu'on fait du foie gras. D'ailleurs, comment on fait du foie gras ?
On gave
les oies avec du maïs.
Avec du maïs.
Qui est riche en fructose.
Et donc on est bien d'accord, docteur, puisque vous parlez de foie gras, ça tombe bien qu'on ne peut pas faire du foie gras. On ne peut pas parler de gavage naturel avec du foie gras. C'est que la bête, elle est automatiquement, quand le foie, il est retourner, c'est qu'on a chopé comme une cirrhose, on est bien d'accord.
C'est une stéatose.
Une stéatose, voilà.
Qui devient cirrhotique, voilà. En général, on les abat au niveau de stéatose. Mais il faut savoir aussi que c'est pas par hasard si on le fait avec des oies et certains canards, c'est que, comme ce sont des migrateurs, ils ont une capacité à avoir un foie de stéatose pour avoir des réserves pour traverser l'océan.
Okay. Et donc, si la bête se gave toute seule, elle peut arriver en stade de stéatose.
Exactement. Elle le fait tous les ans pour pouvoir traverser. Comment on traverse 5000 km d'océan si on n'a pas de réserve?
On stocke.
Mais attends, stéatose, c'est pas cirrhose, on est bien
d'accord. Non,
stéatose,
c'est pas cirrhose.
Elle n'est pas encore, le foie n'a pas changé de couleur, il n'est pas retourné.
Voilà.
Alors, c'est pas la même chose, Philippe, attention.
Ce que dit Chef Evray, c'est-à-dire que la stéatose, c'est je farcis mon foie avec du gras, comme ça après ce gras, je peux m'en servir comme carburant, parce que c'est un carburant accessible. Maintenant, à un moment, il y a des foies humains qui sont stéatosiques, et puis à un moment, le foie n'en peut plus, et il fait de la fibrose. La fibrose, qu'est-ce que c'est? C'est que toute cellule qui souffre dans notre organisme s'entoure pour se protéger. Parce que ça rentre trop, donc elle fait des murs.
Elle se protège.
C'est la fibrose. Mmh. Et si on fibrose de plus en plus, on peut arriver à la cirrhose, qui est totalement réversible et qui peut évoluer soit en cancer, ou en tout cas, le traitement, c'est la greffe hépatique.
Carrément,
c'est la greffe.
D'accord.
C'est la greffe. Aujourd'hui, la grande cause de greffe hépatique, c'est cirrhostéatose.
D'accord.
Et c'est plus stéatose, d'ailleurs.
On fera une émission sur la nage à la rentrée, d'ailleurs, on avait prévu de faire.
Donc, avant que ça finisse, pour vous parliez tout à l'heure de fruits, vous aimez pas trop les jus de fruits. Préférez les fruits avec la fibre pour la consommer, c'est
oui,
pas exactement.
Les fruits avec la fibre. Non, mon problème est simple. Dans un jus d'orange, j'ai 4 oranges.
Ouais.
Je vous mets au défi, le matin, de manger 4 oranges. Vous ne pourrez pas les avaler. Voilà. Et donc, imaginez-vous ce que ça coûte à un foie de voir arriver d'un coup 4 oranges.
C'est vrai.
D'accord? D'un coup.
Chaque émission, vous rajoutez une orange. Hein. Je ne sais pas où vous avez fait, où vous prenez beaucoup d'oranges.
Elles sont des petites variétés.
4 oranges. Qui mange
4
oranges?
C'est
des oranges turques.
C'est énorme.
Très fines. C'est ça le jus d'orange. Donc vous avez une dose de charge.
Ah oui.
Alors, de temps en temps.
C'est au moins 3 oranges minimum. Minimum.
De temps en temps.
Pour faire un verre de jus d'orange.
Le dimanche. Faites un kiff, vous payez un super jus d'orange que vous avez fait avec la machine que vous avez acheté, l'extracteur de trucs et tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Votre foie, il ne va pas... Mais tous les jours...
Donc, ce n'est pas bon du tout.
Moi, je considère que ça n'est pas bon.
C'est quoi? Moi, j'ai longtemps cru que pour la santé, parce que c'était bon pour la santé, qu'on pouvait le boire sans modération. Et je l'ai cru longtemps. Et c'est vous qui m'avez alerté. Qu'est-ce que tu bois? Je dis, je bois un jus de fruit du dragon. Puisque c'est bon pour la santé, je vais en boire 3 d'affilée.
Oui.
Mais non, c'est...
Non, le trop est l'ennemi du bien.
Mais voilà.
L'homme est un animal qui a survécu parce qu'il est capable de s'adapter. Il est capable de ne pas manger pendant 3 semaines, de boire juste de l'eau, de vivre la famine, de l'abondance. Le corps n'aime pas beaucoup que tous les jours, que de temps en temps, on ait une abondance parce qu'on s'éclate. Il n'y a aucun problème, ça ne se voit même pas. Mais qu'on le fasse tous les jours. Et qu'est-ce que nous propose aujourd'hui? Vous savez, moi, je suis d'une époque où, quand ma mère, elle allait chez le boucher, il y avait un boucher comme ça, qui était en hauteur, parce qu'il y a une estrade.
Un euro le kilo de viande aussi, ou c'est un autre?
Arrêtez de vous foutre de moi. La prochaine fois, je vais le prévenir, le malheureux. Et donc, on disait, vous êtes combien à la maison? On est 6. Et ils mettaient le couteau sur le gigot. Ils mettaient le couteau. Et alors, bon, ils ont un peu plus faim, on met un peu plus. Et c'était, il y avait une régulation sociale des quantités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit en grande distribution? Pour le prix de ça, je vous en mets pour ça.
Deux cassettes.
Ouais. Et personne ne jette, parce qu'on a le culte de l'aliment. Dans toutes les religions, on respecte ce qu'on mange. Sûr. Et donc, on jettera jamais ce qu'on a acheté. Donc, tout ce qui est acheté sera mangé.
Ouais.
Voilà. Et donc, on est dans ce système de surenchère, de surenchère, de surenchère, parfois au mépris de soi-même. Et moi, j'ai parfois des patientes qui vont finir les yaourts sucrés des enfants pour pas les jeter. Ouais. Mais il vaut mieux les jeter. Il vaut mieux les jeter parce que c'est pas bon pour elles et parce que leur corps n'est pas une poubelle. Leur corps est quelque chose de sacré. Et donc, ce corps, il faut le respecter. Et il faut pas se laisser envahir par l'alimentaire.
Et justement, avant de finir l'émission, je termine là-dessus, je pense. Au niveau de, pour les diabétiques, pour les gens qui sont malades, la lymphe, est-ce qu'elle a un rôle, et bon, on sait qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans le corps, ça, depuis le départ. Mais est-ce que pour les gens qui sont justement malades, elle a un rôle un peu plus particulier?
Ben oui, parce que le système lymphatique, comme vous le savez, vous avez plusieurs systèmes. Un système artériel qui apporte le sang oxygéné, un système veineux qui ramène le sang qui n'a plus d'oxygène, le sang bleu, et puis vous avez un troisième système qui, lui, va nettoyer le corps et va avoir des cellules immunitaires qui vont prévenir les infections. Ça s'appelle le système lymphatique. Le problème, c'est que le système lymphatique n'a pas de cœur, il n'a pas de pompe. Et donc, comme il n'a pas de pompe, eh ben, ce système qui triple, hein, vraiment les artères, les veines et la lymphe, eh bien, ce système, si justement on fait pas de l'exercice physique ou au moins de la marche, ce système ne fonctionne pas. La seule moment où il peut fonctionner, c'est quand on dort, où il va justement pouvoir revenir un petit peu. Mais sinon, si on reste trop devant sa télé, on commence à avoir les jambes lourdes, le système ne passe plus la barrière au niveau du bassin, on a un corps qui commence à s'apesantir, et on a de temps en temps plus de maladies, on se sent moins bien, on a donc la lymphe, le système lymphatique, c'est extrêmement important, et je rappelle, et je termine, beaucoup d'acides gras remontent au foie par le système lymphatique, par ce qu'on appelle les chylomicrons. Donc, entretenir son système lymphatique, c'est entretenir, ce sont les gens qui sont très précieux dans une ville, c'est les éboueux, les gens qui s'occupent des poubelles.
Ils font ménage. Ouais.
Sans eux, il n'y a pas de ville possible et de vie possible. Et ben, le système lymphatique, c'est la même chose. Et ben, il vaut mieux que les bennes à ordures ménagères passent tous les jours qu'une fois par semaine. C'est la même chose pour la lymphe.
Donc, en gros, un peu de sport chaque jour, c'est pas mal.
Un peu de sport, 3 fois par semaine, 50 minutes en mouillant la chemise.
Sinon, vous partez faire de la moto au Mans le week-end.
Ah oui, mais c'est autre chose.
Bon, ça y est, vous êtes en vacances, hein, docteur Alouche.
Oui, je suis en vacances.
C'est bon. Ouais, on vous retrouve à la rentrée. Voilà. Vous avez bien bossé cette année.
Voilà, grâce à vous.
Ah, vous savez, grâce à vous. Ouais. Des millions de vues sur la chaîne YouTube. Vous pourrez revoir l'émission sur la chaîne YouTube de Beur FM. Chef, voilà, vous êtes ouvert tout l'été, vous.
Tout l'été, nous,
le médaillon à Villejuif.
Vous allez avoir une visite en plus.
Avec plaisir.
Parce que vous faites de la naturopathie. Et
avec
tout.
Plaisir.
Ah ouais, c'est pas
avec
mal.
Plaisir.
Intéressant.
Avoir un grand docteur, c'est un grand plaisir.
Voilà.
Vous allez voir.
Vous invitez que des grands chefs et des grands docteurs.
C'est ça. Ouais,
c'est
ça. Fait que ça.
C'est un peu,
il fait que
principe.
Ça.
Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée. Santé sur Beur FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.